Le Chat Noir Productions vous présente de Laurent Garnier et David Brun-Lambert aux éditions Flammarion Electrochoc. Les derniers mercredis de chaque mois, retrouvez Electrochoc, le livre de Laurent Garnier et David Brun-Lambert narrant toute l'histoire de la techno-music racontée et vécue par Laurent Garnier des années 80 jusqu'aux années 2000, la lecture se mêlant aux morceaux en marge dans le livre qui ont marqué Laurent au cours de toutes ces années, qui ont marqué l'histoire de la dance music.
Nous voici arrivés au quatrième chapitre d'Electrochoc intitulé Got the Bug, dans lequel nous allons suivre les débuts de l'ascension de Laurent Garnier, qui se lance corps et âme dans ce qu'il aime et ce en quoi il croit, le DJing. J'ai décidé d'arrêter définitivement la restauration le jour où je suis rentré à Paris, fin septembre 1989. À cette époque, en France, les DJ étaient encore considérés comme de simples employés de discothèque, et il était toujours difficile de trouver des engagements fixes et d'en vivre. Dès mon retour, je réintégrais la locomotive, où j'assurais la programmation rock du samedi, et le Palace pour les Gaiety Dance du dimanche après-midi. Philippe Corti, le nouveau directeur artistique du Palace, avait pour mission de relifter un club revenu une bonne fois pour toutes de sa magnificence passée. La nuit des années 80 s'était gonflée d'une combinaison alliant fric, sexe et people, mais la donne était désormais changée, et Corti avait pour mission de remédier au manque de moyens financiers par l'invention de nouveaux concepts. Philippe Corti était une légende trash. DJ, organisateur et chef de bande, ce type enflammait le sud de la France depuis les années 80. Partout où il allait, Corti était précédé d'une réputation de jusqu'au boutiste. Ses spécialités, scratcher avec son sexe, lancer un concours de valse en pleine soirée ou se faire jeter des clubs manu militari. Défenseur du DJing paillard, Corti était du genre à virer un DJ des platines s'il jugeait que « on s'emmerde ». Lors d'un très sérieux championnat de scratch DMC se tenant dans les arènes de Nîmes, il squatta les platines, sortit un 45 tours de Claude François, régla le volume au maximum et joua le disque devant un public médusé. La nomination de Philippe Corti à la direction artistique du Palace en 89 marquait un tournant pour le club qui, hormis le Gaiety Dance du dimanche après-midi, les soirées pyramides n'étaient plus qu'un souvenir, ne proposait plus de concept excitant. Un jour, Corti vint me voir pour me proposer une place de résident aux côtés de David Guetta, un jeune DJ de hip-hop à l'origine du succès de la soirée rap Unity au Rex avec Sydney. Guetta possédait une fibre particulière lui permettant de s'inscrire dans la dynamique du mouvement hip-hop tout en assumant son attirance pour le Strass et le Gotha. Nous nous partagions les soirées du Palace, programmant aussi bien Fight the Power de Public Enemy que Promised Land de Joe Smooth. Novembre 1989. Le club redémarrait gentiment, attirant gays, hétéros, starlet, people, mais une vibration s'était évanouie. Ne voulant pas perdre le fil de ce qui se tramait en Angleterre, j'y avais conservé mes résidences. Le vendredi matin, lorsque le Palace s'apprêtait à fermer, je prenais le micro et m'adressant aux 10 personnes naufragées dans le club, je lançais « J'ai ma bagnole, j'ai mes disques, je pars en Angleterre pour le week-end dans 10 minutes. Qui veut venir avec moi ?» Trois inconnus, ivres morts, s'entassaient sur la banquette arrière de ma rave mobile, et je filais droit sur l'Angleterre, avalant joyeusement les 800 kilomètres. Première étape, première fête, Portsmouth, le vendredi soir. Puis, sans avoir fermé l'œil, direction Manchester. Là, même punition. Le dimanche matin, l'autoradio crachait un mix enregistré la nuit même, et nous arrivions à Liverpool pour la crucifixion, le Quadron Park. Le dimanche soir, épuisés, nos t-shirts délavés par la sueur et les taches de bière, nos cheveux collés par les effets conjugués de la transpiration, de la fumée et de substances liquides non identifiées, nous remontions dans ma voiture constellée de chips, canettes de soda, vieux mégots et autres papiers gras, direction Paris via l'Overcraft. Un régime sans sel que je tiendrai pendant 4 années.
Music hitting your heart, 'cause I know you got soul. Nothing is this pain. process that arrives. Designed to fill your mind now that you realize the prize arrives. We got to pump the stuff to make it tough. From the heart, it's a start, a work of art to revolutionize, make a change, something strange. People, people, we all the same. No, we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness. We can't get careless. You say, what is this? My beloved, let's get down to business. Mental self-defense of fitness. The rest is show.
À Paris, le paysage house s'était organisé depuis mon année militaire. Et il s'était trouvé quelques médias underground de prédilection. Parmi les premiers soutiens, une radio associative gay, FG98.2. Dirigée par Henri Morel, la station parisienne avait pris fête et cause pour la house music. Déjà majoritairement diffusée dans les clubs gays de la capitale, la house infiltrait peu à peu les programmes de l'ex-fréquence gay, sous l'impulsion de pionniers parisiens tels que Guillaume Latortue, Jérôme Pacman ou Saul Russo, alias Dr. Beat, patron de la boutique de disques BPM. En 90, Radio FG vouait majoritairement son antenne à l'actualité de la communauté gay. Sa grille alternait talk-show, libre-antenne crue, émissions causant littérature, art ou tendance, et faute d'un positionnement musical clair, la station diffusait de tout. Indus, rock, disco, house, dans un joyeux bordel associatif. Autre soutien précoce de la house et de la techno, Nova. Depuis une décennie, cette radio parisienne régnait sur l'idée d'avant-garde culturelle, comme aucun autre média français. La station, créée en 1981 par Jean-François Bizot, était un laboratoire d'idées au service de vision de son patron. Nova défrichait les nouvelles tendances musicales avec un intérêt affirmé pour l'essence soul et black, diffusait la nouveauté, prenait l'éclectisme, donnait une voix aux nouvelles tendances urbaines. Un monde en soi. C'est déjà du 33 rue du Faubourg Saint-Antoine que Bizot avait lancé Actuel, le magazine qui avait marqué au fer la presse française et initié plusieurs générations de lecteurs au reportage Gonzo et à la notion de tribu. À travers Actuel, Bizot avait totalement redéfini l'essence d'un média. Radio Nova fut présentée comme sa déclinaison hertzienne. Suivant l'instinct de son démiurge, Nova fut le reflet d'une politique d'exigence culturelle qui passait parfois pour de l'élitisme branché, puisant son inspiration dans la rue. Nova devint terre d'expérience autant que média ouvert à la nouveauté. Elle fit un travail d'intérêt général en lieu et place des radios nationales qui confondaient jeunisme et défrichage. Nova ouvrait son antenne à ceux qui créaient l'actualité. Il suffisait de sentir la vibration des murs pour comprendre qu'on n'était pas dans une radio ordinaire, que le Nova Possi n'était pas constitué de gars qui venaient faire leurs heures avant d'aller retrouver Bobonne. Non, on se sentait inclus dans une énergie collective, on participait à une expérience radio sans censure ni obligation, on vivait pour Nova et en échange, on jouissait d'une liberté d'expression quasi illimitée. J'entrais la première fois chez Nova sur invitation du DJ Loïc Durie, programmateur, authentique homme de radio, boulimique de culture et de nuit, véritable affranchi de tous les styles de musique black. Loïc s'intéressait à la house, en diffusait sur l'antenne et me proposa de venir mixer. La famille Nova me plaisait. Elle ne ressemblait en rien au canon d'une équipe radio traditionnelle. Ici, la culture n'était pas circonstancielle. Elle était envisagée comme une cause pour laquelle on se battait sans sombrer dans le militantisme bas du front. Je rencontrais des gens avec du cœur, de véritables puits de culture. Rémi Colpacopoul, mémoire vivante du jazz, de la musique brésilienne et latino. Bintou Simpore, la grande dame de la world music à Paris. DJ Gilbert, le magnifique. Ariel Wiesman, l'agitateur, dynastie, père du hip-hop français. Lord Zelko, pionnier du reggae. L'invitation de Loïc Durie se transforma en résidence hebdomadaire. L'émission fut baptisée Paradise Garage. Le concept, carte blanche. Un soir, un type passablement éméché entra dans la régie DJ. Il resta planté là à m'observer avec sa tête de fou, tout débraillé, les cheveux ébouriffés, la clope au bec, sans dire un mot. Je poursuivis mon émission, pris le micro pour annoncer les titres lorsque dans mon casque, derrière moi, j'entendis le type ruminer. « Tu sais pas parler au micro, c'est de la merde, faut que t'apprennes !» Ce fut ma première rencontre avec Jean-François Bizot, l'incarnation de la collection Tout l'Univers. Si tant est qu'une encyclopédie puisse être « destroy ». Dans les années à venir, j'allais faire des allers-retours entre différentes stations parisiennes, mais Nova resterait toujours ma maison de cœur, par fidélité à l'esprit dont Bizot était l'initiateur. En 90, Eric Hauteville et Joachim Garraud, qui produiraient 10 ans plus tard les disques platinés de David Guetta, franchirent une nouvelle étape dans la diffusion de la house en lançant la première radio 100% dance, Maximum. Station parisienne dotée de moyens financiers considérables et balayant l'ensemble du spectre dance, des premiers grands succès house, Orbital ou LFO, à des choses plus commerciales, Adeva ou Black Box. On me confia les rênes de l'émission du samedi soir, Rave Max, soit 4 heures consacrées à l'actualité techno, house et rave enregistré chez moi sur Bandrivox, avec pour règle de ne jamais diffuser le même disque deux fois. Forte de cette diffusion sur les ondes et en club, la demande autour de la house grossissait et la production électronique mondiale était désormais largement disponible dans les bacs des disquaires parisiens BPM, USA Imports, Denseteria et TSF. Pendant ce temps, Didier Lestrade, Libération et Guépier, et Vincent Borel, de Actuel, emmenaient la house dans les rédactions et imposaient des papiers de fond, défendant la house et la techno comme une culture, là où la presse généraliste ne voyait rien d'autre qu'une énième mode à anglaise, appelée à disparaître une fois sa date de péremption expirée. Quant à moi, j'avais mes engagements à la locomotive et au palace, ça me faisait exister sur la scène parisienne. Mais ça ne me suffisait plus. Ce que je désirais, c'était construire ma soirée. Non plus décrocher une résidence, mais trouver un lieu dans lequel j'aurais toute liberté pour assurer un point de rencontre avec le public et fonder une famille. Créer sa soirée, c'est comme accueillir des amis à dîner, la sueur en plus. C'est mettre les petits plats dans les grands, sans autre but que de faire plaisir. C'est aussi, inévitablement, savoir perdre de l'argent. Inviter un DJ étranger, offrir des cassettes de mix au public, louer du son et des lumières, faire en sorte que la table soit plus accueillante et ouverte à tous. Tout ça a un prix. Et le problème, ce n'est pas tant de trouver un lieu où poser son bardac que de rencontrer le patron d'un club qui mesure le risque et qui, parce qu'on lui a bien vrillé le cerveau, accepte de suivre. J'ai toujours travaillé avec des gens qui savaient perdre de l'argent pour mieux construire une soirée. Et à la fin, tout le monde s'y était toujours retrouvé. Car si le public ne réalise qu'une seule chose dans la tourmente d'une nuit, c'est bien la sincérité de la proposition qui lui est faite. Et moi, qu'est-ce que je gagne ? Une fidélité, une confiance et même de l'amour. La musique mise à part, il est là le vrai moteur du DJ. Et cette relation ne s'achète pas. J'avais une idée précise de la soirée que je voulais monter. Une nuit à l'anglaise qui réunisse ce que j'avais connu à Manchester. Saul Russo, le patron de BPM, me brancha sur une minuscule boîte gay située rue Keller, à deux pas de sa boutique, la Luna. Un soir, j'allais y faire un tour en solo et découvris deux étages saturés de garçons se trémoussant, sombres, bas de plafond, intimes. La salle du bas pouvait contenir jusqu'à 150 anorexiques bien compressés. Exactement ce que je recherchais. Je rencontrai le patron de la Luna, Christian Vanier, lui servis mon baratin et repartis avec la promesse d'un mercredi soir pour un coup d'essai. La soirée fut baptisée Trax. Des tracts furent diffusés dans les boutiques des disques et dans les rues du Marais. La première de Trax eut lieu le 30 novembre 89, attirant l'habituelle clientèle gay de la Luna. Puis des hétéros vinrent se greffer aux soirées, et notamment un groupe d'étudiants anglais qui devinrent les premiers fidèles. Parmi eux, une jeune étudiante discrète au déhanchement inimitable, ma future femme. Trax proposait une formule unique du club à l'anglaise à Paris. La rumeur s'amplifia et la soirée décolla, accueillant successivement les DJ mancuniens John Da Silva, Graham Park ou Steve Williams. Les Happy Mondays vinrent y donner un after-show. Les groupes Candy Flip, Man Machine ou Dream Frequency s'y produisirent en live. Durant la soirée, des graffeurs et autres performers avaient toute l'attitude sur les murs et la piste du club. Chaque week-end passé à Manchester ou Liverpool, je faisais la promotion de ma soirée, relayée dans ma tâche par les DJ anglais venus s'y produire par amitié et qui encourageaient des groupes de ravers anglais à faire le voyage. Mais la réputation de la Luna était sans commune mesure avec sa réelle capacité. Les rêveurs qui débarquaient rue Keller s'attendaient à pénétrer dans un club de 2000 personnes. Un jour, on entendit même un type douter. « Ok, ça c'est l'entrée, mais où se trouve le club ?»« Ben t'y es. » C'est tout ça qui faisait la Luna.
And I will tell you no lies, because the days crazed and amazed, so I'll rephrase. I can keep on going for days, 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 days will turn to years. You'll still be here, and if I can have a chance, I'll go talk off your ears, cause I can kick for being
sick, quick, not thick. You come over here, you don't get your ass kicked into a hussy. Put under a stone cold surface. And when I finish that, I hold a jam at your surface. You're astounded. And you're walking around in circles. And it's a big miracle. How you still going? You're slowing your battle. You're running low when you try to pull me back. But of course, I keep towing you on and on and on. But that's wrong. You should be concentrating on rapping your own song. Cause rapping is an art. But there are many rappers. It takes talent. I've got plenty of that. Plus the fact that I ain't whack jack. You come over here, you know that you're gonna get slapped back to where you come from. Could be the punk or London. I'll take you all on. Cause the truth to mess and jest with the roughest. Manchester in the house is something to blow your mind into the atmosphere. Come on, feel the bass, cause London's here.
De ce petit club bas de plafond à l'énergie communicative, une succession d'événements allait découler, à la manière d'une cascade de dominos. C'est à la Luna que j'ai rencontré le photographe Jean-Claude Lagrèze, personnage influent dans le milieu de la mode et disciple de Suzanne Bartsch, la reine des drag queens new-yorkaises. S'inspirant des happenings de Suzanne Bartsch, Jean-Claude étendit le phénomène go-go dancers et drag queens, jusque-là typiquement new-yorkais, aux nuits parisiennes, en montant la soirée French Kiss à la locomotive. Guillaume Latortue et moi étions devenus les DJ attitrés de fêtes délirantes de Lagrèze. Lors de la première, un univers extravagant fait de spectacles délibérément choquants se déploya dans la loco, devant un parterre essentiellement composé de gens à la mode, de gays et de branchés, plus quelques rockers qui erraient là, stupéfaits. Puis Jean-Claude Lagrèze exporta pour une nuit le concept de French Kiss à la Baia Imperiale de Rimini, et avec lui je retournais sur les lieux de mon flash d'enfant. Le laser sur I Feel Love, les stickers à l'effigie de Marilyn, que j'avais collé partout, etc. La Baïa, c'était le premier club qui m'avait donné la chair de poule. Mais le temps se charge d'amplifier les émotions. Une fois là-bas, je réalisais qu'en fait, ce club était tout ce que je détestais. L'archétype des clubs à l'italienne, avec chandeliers et clientèle endimanchée. C'est lors de cette French Kiss à la Baïa que je rencontrais Fred Dumely, patron de club de l'Enfer à Dijon. Il voulait faire bouger son club rock et me proposa de venir jouer chez lui. J'acceptais. Je débarquais à Dijon en juin 90, découvris l'Enfer et ses deux étages. Au premier, un dance floor de la capacité de celui du Rex. Et au-dessus, une pièce plus intime, à l'abri de l'agitation. je fis connaissance avec le staff de l'Enfer, dont un futur DJ techno, Tonio, alors chargé des lumières du club. Ce soir-là, j'ai joué mes disques sans faire de concession. Le public sceptique buvait des bières et réclamait les Cure et U2. En l'espace d'une heure, le club est passé de 800 personnes à une petite centaine. Il ne restèrent que les curieux et les gays. Un semi-bide. Fred vint me trouver, désolé. Alors ? Et moi, pété comme un coin. On remet ça tous les mois, si tu veux. Je visiterai l'Enfer une fois par mois pendant les 5 ans à venir. À Paris, Trax avait rencontré un joli succès. Quand une soirée a fait ses preuves et honoré ses promesses, il faut savoir l'interrompre. Trax donna sa dernière valse en juillet 90. Puis je partis pour la première fois à Ibiza, rejoignant Sacha pour la rêve Real Life The Dream. En tête d'affiche, le groupe électronique de Manchester, 808 State, formé par le visionnaire Gerald Simpson, The Guy Called Gerald. Martin Price, propriétaire de la boutique de disques Eastern Bloc et du label Creed, et Graham Massey. L'été 90, 808 State surfait sur la vague de l'énorme carton de leur titre Pacific State. De ce séjour à Ibiza ne perdure que l'écho d'une énorme gueule de bois. 4 jours en apnée passés entre rave, plage et club. Le second Summer of Love n'était qu'à quelques encablures de nous et il régnait encore ici le parfum des vertus de l'acid house. Ibiza était désormais envahi par les clubbers anglais à la recherche de l'image d'Épinal d'Ibiza, l'île de la fête offerte à tous. À mon retour, s'imposa l'heure des bilans. De fil en aiguille, chaque engagement débouchant sur un autre, toujours les dominos. J'avais pu en une année réaliser mes objectifs, vivre du DJing, créer ma soirée et m'inclure dans la dynamique de l'expansion de cette musique à Paris. Pour moi, le DJing évinçait tout. Il n'y avait pas de place, surtout pas de temps, pour quoi que ce soit d'autre. Et malgré l'enchaînement infernal des soirées et le chaos assumé de mon intimité, dans le désordre amour, amitié, famille, malgré les cachets modestes que je percevais et le bordel de mes 30 mètres carrés saturés de disques, malgré une alimentation réduite à des macaronis au fromage et des heures de sommeil frôlant le néant, j'étais heureux. Qu'est-ce qui peut atteindre un type de 24 ans qui vide sa passion et sent sa vie prendre du relief? Rien. Hey, je touchais mon rêve de môme du doigt. En 3 ans, j'étais passé du statut de valet de pied à celui de DJ jouant 5 fois par semaine. Dans ces conditions, on s'accommode de tout, d'une vie sociale éclatée et du décalage permanent. À 7h du matin, en sortant d'un club où j'ai travaillé toute la nuit, je croise les gens qui partent subir une journée de plus dans des jobs qu'ils n'ont pas choisis et dont, pour la majorité, ils n'ont rien à cirer. Salut les gars, moi je rentre me coucher. Même les angoisses, légitimes, du noyau familial, étaient tenues à distance puisqu'on était majeur et financièrement indépendant. Et non, ment, ce n'est pas une passade. Une liberté comme celle-là, ça se dévore à pleines dents. Et qu'importe si cela rendait mon entourage tributaire de mes choix. Moi, petit con, je me disais, aux autres de s'y faire, jusqu'à ce qu'une femme entre dans ma vie. Là, je découvris que l'amour ne peut s'accommoder d'un périmètre de vie si restreint. Car il faut une bonne dose d'abnégation pour partager la vie d'un DJ. Ces dames doivent exactement savoir de quoi je parle. Un mec jamais là le week-end et qui en plus travaille tous les soirs de fête. Des pièces saturées de disques, des horaires infernaux pour une vie de couple, à moins d'aimer se faire réveiller à 7h du matin par un type puant la clope froide et jurant qu'il vous aime avec son haleine de poney, etc. Je me disais que le problème était certainement le même pour quiconque travaillait la nuit. Je ne sais pas, moi, barman, vigile, routier. Mais je ne sais pas si les routiers finissent leur travail à 6h du matin, les bras en l'air, déchirés à la tequila, à jouer Can You Feel It devant un parterre de folles tordues, d'hétéros extasiés et de filles aux yeux doux, exposés à toutes les tentations, sans parler des galères.
Une nuit à la Luna, un type va me brancher.
Je m'appelle Maurice, je fais des soirées à New York, je suis super connu, faut que tu viennes. Je dis oui. Comme n'importe quel DJ européen de base, je rêvais de partir jouer à New York. Le monde de la musique est plein de fantômes, de souvenirs encore vifs qu'on raconte aux DJ. Le Paradise Garage de Larry Levin, le Loft de David Mancuso, l'invention de la nuit disco new-yorkaise. Tout s'est enchaîné, je partis à New York pour 3 soirées, payant mon billet aller, que Maurice devait me rembourser. J'étais jeune, naïf, je ne vis rien venir. J'atterris à Kennedy Airport, personne pour m'accueillir. J'appelle Maurice, tombe sur lui au saut du lit. « Waouh, j'ai fait la fête hier soir, tu me réveilles, fais chier. Bon, bouge pas, je viens te chercher. » J'attends 2 heures à l'aéroport en flippant, assis sur ma caisse de disques. Maurice arrive enfin, la gueule enfarinée. « Écoute, je t'ai pas réservé d'hôtel, tu vas venir dormir chez moi, ce sera plus cool. » On grimpe dans un taxi, direction Greenwich Village, où il vivait. Il m'indique un immeuble banal et j'atterris dans une chambre de bonne minuscule, infestée de cafards et qui pue comme un égout. Je lui dis « Écoute, Maurice, je veux bien dormir chez toi ce soir, mais demain, ça va pas le faire. Il faut que tu me trouves un hôtel. » Là, il m'embrouille. « Mais non, ça va être cool, les soirées vont être mortelles. D'ailleurs, si tu pouvais me passer un peu de thunes, j'ai besoin de payer les affiches. Je te rembourse, hein, y a pas de problème. » Je me méfie, mais la journée se passe, on traîne dans Soho. Il ne me rembourse toujours pas le billet aller. Mes réserves diminuent et le soir, je me retrouve sans un rond. Maurice fait mine de rien. « Ce soir, il y a une fête, on va faire la promo sur place, c'est cool. » Tu parles, le soir on arrive à pied devant un club de Manhattan, on reste des heures dehors à poireauter, le physionomiste est derrière un cordon, considère la foule comme du bétail et fait entrer les clients selon son bon vouloir. Il faut le voir regarder par-dessus l'épaule des gars frigorifiés et faire entrer les clients qui supplient d'un hochement de tête dédaigneux. Ridicule. Plusieurs heures se passent et je soupçonne Maurice de n'être connu de personne à New York. Par miracle, on pénètre dans le club. Là, c'est très clair, Maurice ne connaît absolument personne et il n'y a pas la moindre trace de flyer ou d'affiche annonçant notre soirée. Sur la scène du club, on peut voir un tableau vivant, des comédiens habillés en tenue du 17e, jouant une scénette tirée de Meurtre dans un jardin anglais de Peter Greenaway. Après 2 heures à zoner dans le club, on rentre enfin se coucher dans la porcherie de Maurice. Lorsque je me réveille le lendemain matin, je le surprends le nez dans mon sac. Je réalise que le type est un mythomane fini, cocaïnomane de surcroît. L'heure de la soirée arrive enfin et je me retrouve à Nels, à jouer devant 30 personnes. Je m'ennuie à crever lorsqu'un type chaud vient me brancher. Il s'appelle Moby, possède son propre label, Instinct Records, et a cartonné en Europe avec son single Go. Moby passe la nuit dans le club, puis m'invite à visiter son studio. Au matin, on se quitte bons amis. Et je pars à mes frais dormir à l'hôtel. Franchement, une autre nuit dans la tanière de Fennec de Maurice, non merci. Le lendemain, malaise. Maurice noie le poisson, n'a toujours pas mon fric. Je songe à l'étrangler. Une autre soirée est prévue au club Nix Groove. À 22h, devant la porte du club, j'apprends que la soirée est annulée. Très gros malaise. Maurice m'évite autant qu'il le peut. Toujours pas de signe de mon fric ni de mon billet retour, bien sûr. Je me dis que ce genre d'enfoiré, ça n'existe que dans les séries B. Une dernière soirée est programmée au Red Zone, un club énorme. 2000 places au bas mot. Je ne sais pas comment ce loser de Maurice est arrivé à convaincre les tauliers de lui laisser les clés. Je ne demande même pas, mais je me rassure en imaginant déjà la grosse fête qui annulera toutes les autres galères. Le soir venu, on dénombre plus de DJ dans la cabine que de danseurs dans la salle. Une demi-douzaine de clients et toujours Moby. À 2h du matin, la soirée est arrêtée par les responsables du club. Je cherche Maurice dans tout le Red Zone. Aidé par les DJ et tauliers du club qui veulent aussi lui mettre le grappin dessus. Mais bien sûr, le gars a disparu. Je me retrouve tout seul dans la rue, assis comme un malheureux sur ma caisse de disques, mon sac de fringues sur les genoux, sans un dollar en poche et sans billet retour. Je suis cuit. J'imagine déjà le pire des scénarios, agressé, dépouillé par un gang en goguette, laissé pour mort sur le trottoir, dépecé et dévoré par les chiens sauvages. Je vois un type qui me fixe de l'autre côté du trottoir. Je ne respire plus. Il s'approche, se plante devant moi, sourit, m'explique qu'il était dans le club. Ah bon, je t'ai pas vu. Réalise la merde dans laquelle je suis, me propose de m'héberger pour une nuit et de m'avancer le prix d'un billet d'avion pour Paris. Ce type m'a sauvé la vie. La moindre des choses était de lui consacrer quelques lignes afin de lui redire merci. Je suis rentré de New York complètement à sec. Et à tous ceux qui m'interrogeaient, je disais « De la merde, je me suis fait rouler comme un bleu par le dernier des enfoirés. Je ne remettrai plus les pieds dans cette ville de... J'avais appris une des règles de survie propre au métier de DJ, ne jamais partir sans avoir un billet retour, un hôtel réservé et quelques dollars en poche. Aidé par Jean-Claude Lagrèze, mes résidences, et la réputation montante de la Luna, les engagements se succédèrent, parfois hors du cadre des clubs. Ainsi, l'anniversaire d'Elton John au Pré-Catelan, ou la première partie du concert de Delight, groupe qui trustait les charts internationaux avec le single Groove is in the Heart, et qui mentionna mon nom pour assurer la première partie de leur live en novembre 90 à la Cigale. Originaire de New York, nourri à la fois au hip-hop et à la house, ils demandèrent que leur première partie soit assurée par un groupe de rap français et par un DJ. Une exigence alors impensable en France, où le hip-hop et la house, respectivement musique de racaille et musique de PD, étaient considérés comme deux mouvements que tout opposait. Pourtant, ces deux mouvements avaient les mêmes racines, le groupe allemand Kraftwerk ayant aussi bien inspiré Afrika Bambaataa pour Planet Rock que les musiciens techno de Détroit. La première partie de Delight fut assurée par Supreme 93, soit la première mouture d'NTM. Pendant que Joe Star et Cool Chain prenaient la scène, dans la salle, le malaise était palpable. B-Boys et Gay s'évitaient soigneusement. À l'issue de la prestation du Supreme 93, le public rap quitta massivement la salle, et lorsque je débutais mon set house, le parterre était exclusivement branché et gay. J'étais convaincu qu'il fallait décentraliser la house en province, et dès novembre 90, j'exportais une fois par mois mes soirées de la Luna à Dijon. À l'enfer, New Age fidélisait progressivement un public neuf et ulcérait la frange rock qui venait râler. Tu peux pas changer de musique, t'as pas du Simple Minds. Depuis la loco, j'avais l'expérience de cette clientèle. Je les calmais en jouant la pop de Manchester, Stone Roses, EMF, Happy Mondays, autant de groupes rock issus de la rave culture anglaise. Les tempos de ces disques étaient binaires, mais ils incorporaient des guitares et les rockers arrivaient encore à s'y retrouver. Puis je les emmenais sur des terres électroniques à des années-lumière, des perfectos à franges et des mèches grasses. Au second mois de résidence de New Age, j'appris qu'un groupe de fidèles se déplaçait de Besançon à chaque soirée, emmenant avec eux d'autres curieux, d'autres amis. Les affranchis refusaient de partir tant que n'avait pas eu lieu la série Acid Naz, le cérémonial de fin de l'enfer. Bourré, je piochais dans la discothèque du club, je jouais et scratchais « Allô Papa Tango Charlie » de Mort Schumann et je prenais le micro et hurlais « Je veux une bière !» Après plusieurs mois de résidence, la clientèle du club était désormais friande de house et de techno. L'enfer avait réussi sa mutation. Un soir, un type vint se planter devant moi, demandant « T'as pas les Beatles ?» Là, j'y ai pas cru. J'ai arrêté la musique, j'ai attrapé le micro et en le montrant du doigt, j'ai pris le public à témoin. Devinez ce qu'il vient de me demander, le jeune homme, juste là, les Beatles. Un énorme ouh, s'éleva. La honte sur toi, tocard, pauvre type, braillait 800 excité. Le gars m'a fixé droit dans les yeux et a articulé. Espèce d'enculé. Il a dû rentrer chez lui, s'écouter Let It Be en boucle, bien peinard. Depuis, on n'est plus jamais venu me réclamer les Beatles. Suite au succès de l'enfer, le bouche à oreille fonctionna. Je partis jouer en province, me frottais à Montpellier, Marseille, Lyon et dans des villes improbables où la techno ne s'était pas encore risquée. Dans ces allées et venues, je fis la connaissance d'Alexandre Ercomer, un jeune excentrique promoteur de soirées gay en Suisse. Il m'invita à jouer au MAD de Lausanne, un club dont la réputation n'avait rien à envier aux excès du Palace de Fabrice Emaer. Le MAD, pour Moulin à Danse, fut créé à Genève en 1984. Par Pascal et Monique Dufard, deux authentiques enfants du Flower Power. Lui, ancien pianiste prodige, enfant, il accompagnait Gilbert Bécaud sur scène. Elle, dame du monde. Le génie des Dufard, c'était d'avoir su habilement jouer avec la loi helvète des cercles, qui les dispensait d'avoir une patente, une licence 4, pour leur établissement. La nuit suisse était strictement contrôlée, et le champ des possibles est étendu s'il est inscrit dans le cadre d'une loi dite des cercles, soit dans un cadre privé. Les Dufard créèrent donc un cercle de danse de couple. Chaque client possédait une carte de membre. Moyennant le paiement d'une somme annuelle, le MAD leur garantissait chaque week-end une soirée de disco et près de 25 spectacles par an. Les Commune Arts, Nougaro, Bachung, Magma, la Mano Negra, mais aussi Desproges et Django Edwards. Puis le MAD fut déplacé de Genève à Lausanne, où il investit l'ancienne gare du quartier du Flon. Pascal Dufard passa alors un contrat avec la société LO, qui gérait le secteur du Flon, stipulant qu'il serait la seule personne autorisée à avoir deux platines dans son établissement, dans tout le périmètre du quartier. Banco. En 1987, LO voulut construire une gare dans le lieu occupé par le MAD. Le club fut déplacé dans un entrepôt de boulons de 4 étages, en plein cœur de Lausanne. Un warehouse gigantesque. Au sous-sol, une petite salle, le parloir. Au rez-de-chaussée, la salle principale, pensée comme un espace polyvalent, transformable, pouvant contenir 2000 personnes. À l'étage supérieur, une salle de cinéma et une salle de décompression dans laquelle attendait une rangée de lits. Enfin, au second étage, un restaurant et les bureaux. Comme à Paris, la scène gay prit d'assaut les soirées acides, drainant avec elle toutes les extravagances. Depuis 87, la house avait trouvé ses marques en Suisse romande. Les premières soirées house s'étaient tenues au casino de Montreux avec le DJ américain Tony Humphries. une scène DJ avait émergé, emmenée par Stéphane Mandrax, Jamin, Willow. L'Italie voisine donnait l'impulsion et les danseurs voyageaient entre Rimini et Lausanne. Des soirées avaient lieu au sommet des montagnes, on y accédait par télésiège, ou dans des entrepôts. Face à l'arrivée irrésistible de l'acid house, le mélange de musique très éclectique, si spécifique au MAD, laissa place dès 88 à une programmation largement dominée par la house et la techno. Les danseurs de Maurice Béjart installés dans un lieu voisin vinrent spontanément donner des spectacles au MAD et Suzanne Bartsch y déclina des soirées au parfum de scandale. Je débarquais à Lausanne le 16 décembre 90 et jouais devant un public surexcité. Une fois le MAD fermé, on me signifia que les patrons, que je n'avais toujours pas rencontrés, m'attendaient dans leur bureau. Je gravis les 3 étages du club, traversai le restaurant, croisai des lits désormais vides et m'attardai devant la salle de cinéma désertée. J'arrivai finalement dans le bureau où les Dufards, tout de blanc vêtus, m'attendaient. Nous en étions en présentation d'usage quand je sentis surgir en moi une violente montée d'extase. Putain, ça fait déjà une demi-heure! Une conversation polie s'engagea pendant laquelle j'essayais en vain de me maîtriser. Ils me payèrent, je les remerciai en réprimant un violent excès d'enthousiasme. Les saluai et redescendis l'escalier tout fier d'avoir simulé le mec clean. Je recroisai le couple Dufard un mois plus tard au MAD pour ce qui fut le lancement de ma résidence mensuelle en Suisse et l'ébauche de l'axe Paris-Dijon-Lausanne que j'allais développer durant plusieurs années. Monique et Pascal m'accueillirent chaleureusement dès mon arrivée et me firent comprendre dans un sourire entendu que cette fois, ils me paieraient avant la soirée. Ce sera certainement moins pénible pour vous, Laurent. Ce n'est pas à deux authentiques enfants du Flower Power qu'on apprend à faire la grimace. Depuis juin 90, dans les cours d'école française apparaissaient les smileys importés d'Angleterre. La demande du public autour de la techno s'amplifiait, de nouveaux acteurs apparaissaient et en secret, Paris abritait sa scène rave. À l'été 90, dans le cadre du fort de Champigny ou du collège arménien, les promoteurs Manu Casana et Luc Bertagnol montèrent des fêtes techno inspirées du modèle anglais. D'une édition à l'autre, le public tripla, passant de 600 à 2000 personnes en seulement 3 mois. Le 8 décembre, la radio Maximum organisait sa première grande messe au Bourget, invitant LFO et Nightmare on Wax. Puis les rendez-vous rêves parisiens s'enracinèrent dans la zone industrielle d'une ville communiste de banlieue. Au milieu des années 60, à Montreuil fut construite Mosinor, la première zone industrielle en étage d'Europe. Dans cet entre-là d'immenses entrepôts, on peut encore voir des rampes permettant aux camions de monter les étages de l'usine. Au sommet, une terrasse édifiée pour que le week-end, les familles et les ouvriers viennent se détendre. En semaine, cette terrasse était censée servir de cuisine d'entreprise pour les équipes d'ouvriers. Mais le projet radical ne rencontra jamais de succès. La mairie de Montreuil hérita de Mosinor et l'oublia. Éric Napora est traiteur. À l'époque, il organisait des événements pour des sociétés privées et était en constante recherche de nouveaux lieux. Avec son équipe, il découvrit par hasard le dernier étage de Mosinor. Séduit, il décida d'en créer un fonds de commerce. Fin 90, Luc Bertagnol loua la salle pour y organiser une rave. La soirée ne connut pas le succès espéré, les organisateurs perdirent de l'argent, mais Napora, intéressé par ce qu'il venait de découvrir, leur proposa un marché, annuler leurs dettes et organiser ensemble des raves à Mosinor. Bertagnol et son équipe avaient élaboré un système très au point de promotion de leurs événements. Un mailing constitué depuis leur rave au fort de Champigny assurait la venue d'une clientèle fidèle et affranchie. La première soirée eut lieu début 91, succès immédiat. Pour la seconde édition, les organisateurs ouvrirent leur terrasse. 2400 rêveurs répondirent présents. Bientôt, ne pouvant plus satisfaire la demande, l'équipe investit les nombreuses salles attenantes du dernier étage. De 91 à 94, le budget des soirées tripla. Le sound system venait de Hollande, les lumières d'Allemagne, les DJ de toute l'Europe et un accent particulier était mis sur la décoration. Le tout en respectant la légalité. La SARL Cosmos Factory effectuait ses demandes de licence d'alcool, engageait une équipe de sécurité professionnelle, déclarait ses soirées auprès de la préfecture. Mais la légalité n'altère pas la magie. Prenez n'importe quel ancien de Mosinor entre quatre yeux et demandez-lui de vous raconter ses plus beaux souvenirs. Vous verrez en quoi une soirée peut marquer toute une vie. Comment elle peut rester toujours là, au fond du cœur. Les deux DJ résidents, Francesco Farfa et Jérôme Pacman, accompagnaient les danseurs jusqu'au dimanche midi. Une octogénaire venait danser en voisine. Se mêlant au raver, des danseurs se levaient à 8 heures pour vivre les dernières heures de la fête, apportant avec eux fruits et croissants. D'autres se posaient sur le toit de Mosinor, le visage rougeoyant dans les rayons matinaux du soleil, et regardaient tout autour, la ville dormait encore. Je dois dire que je n'étais pas le bienvenu dans les fêtes du duo Casana-Bertagnol, ni à Champigny, ni à Mosinor. C'est drôle, j'étais considéré comme un DJ de la scène gay, alors qu'à la Luna ou au Palace, les gays râlaient parce que je faisais rentrer trop de filles dans mes soirées. Lorsqu'on ne m'envoyait pas le motif pédé à la gueule, j'avais droit aux diatribes sur mes liens avec l'Angleterre. En gros, fais ton truc avec les gays et les rosebifs et bouge de notre périmètre. Le message était clair, je n'avais encore jamais été confronté à une telle hostilité. J'étais mis à l'écart par des gens que je ne connaissais même pas et pour des préjugés injustifiés. Ça, forcément, ça fait mal. Mais avec le temps, on arrive à se construire une carapace. La scène house parisienne était encore microscopique et elle se crêpait déjà le chignon. Tu parles d'une ouverture d'esprit. C'est curieux cette mentalité franchouillarde. Dès qu'on se bat pour construire quelque chose et développer son travail, on est considéré comme le dernier des vendus. La France doit être l'un des seuls endroits dans le monde où la réussite est considérée comme suspecte. Partout ailleurs, les artistes locaux sont d'abord soutenus par leur pays. Mais il faut faire avec. J'avais gardé en mémoire les spectacles de tableaux vivants aperçus à New York. Je proposais au Palace de décliner ce concept autour d'une soirée baptisée Ose et ramener avec moi un jeune étudiant timide de food music que j'avais rencontré à la Luna, DJ Deep. La première eut lieu le 23 mai 91. Pendant Ose, la scène du Palace était fermée par un rideau sur lequel un laser projetait le décompte d'une horloge. À 1h30 précise, on ouvrait le rideau. On diffusait une bande mixée des thèmes du Magicien d'Oz et de 2001 l'Odyssée de l'espace. Une machine à fumer s'emballait sur scène et le public découvrait une déco de fleurs et de visages en papier créée par une amie anglaise. Le Palace avait encore changé de main et traversait de sérieuses difficultés financières. Lorsqu'il ferma pour quelques mois en 91, Oz fut déplacé dans les murs d'un ancien club punk mythique où la clientèle venait jadis se fracasser la tête sur les lavabos en écoutant les Sex Pistols. Le Rose Bonbon. Terré dans une rue adjacente à l'Olympia, Rose Bonbon devint un club pour garçons après que son équipe, Fred Bowling et Eric Rugg, partit reprendre la locomotive. Au 6, rue Comartin s'ouvrit alors le Boy, le meilleur club gay parisien des années 90. On accédait au club en descendant un large escalier. Un bar courait sur la droite et on pénétrait dans une grande salle délimitée par une piste de danse en arc de cercle. À son extrémité, une petite scène. La cabine DJ était située à l'autre extrémité de la salle, si loin du dance floor qu'il était difficile de percevoir autre chose qu'un magma de 1000 corps suants. Le Boy était un club refuge où tout pouvait se passer, sans aucun tabou. À 7h du matin, n'importe quel jour de la semaine, c'était plein. Chaque week-end, la clientèle du Boy partait grossir les rangs du Boccaccio, club trônant à la frontière franco-belge et ouvert sans interruption du vendredi au lundi soir, au milieu de danseurs venus de toute l'Europe pour s'éclater. Les DJ résidents jouaient de la new beat, techno-locale, sombre et coriace, tout droit sorti des studios belges. Ils avaient une façon bien à eux de construire les tubes. Ils jouaient les disques plus de 10 fois par nuit, les laissaient filer quelques minutes avant d'enchaîner sur un autre titre et revenaient au même disque 1 heure plus tard. Ultra efficace. En quittant cette cuisine de l'enfer techno, chaque danseur connaissait les disques playlistés par cœur. Une fois rentré à Paris, la clientèle du Boy réclama au DJ belge Marco, résident du lieu, le même son et la même ambiance extrême qu'au Boccaccio. En septembre 91, la première de Zoo au Boy proposa une programmation house et techno à contre-pied des canons new beat prêchés par le club. Sur le modèle de Oz, on déplaça la cabine sur scène afin de placer le DJ au centre de la fête et la soirée fut agrémentée de performances maison. À 1h du matin, les lourds rideaux de la scène s'ouvraient sur des tableaux vivants en parfaite opposition avec l'ambiance électrique du club. Le public se déchaînait sur la piste, mais sur scène, dans un décor kitschissime signé Thierry Garnier, un couple inspiré des Bidochons regardait la télé, dormait, tricotait ou lisait sagement un bouquin. Et ça, le public, ça l'excitait. En 91, la progression de la techno en Europe était irrésistible. La France s'apprêtait à vivre la fièvre des fêtes sauvages, la Belgique régnait en maître sur les productions rêves, et la Suisse allait accueillir les grands messes techno. Depuis Francfort et Berlin, un vent d'euphorie se levait en Allemagne alors que le phénomène rave s'amplifiait en Angleterre. C'est un autre tournant de cette histoire. Car c'est ici que la techno devient globale, qu'il n'est plus seulement question de musique, mais aussi de business, de gang et de police.
Le Chat Noir Productions vous a présenté Electrochoc.
Retrouvez l'émission sur le forum, le chatnoir.forum.com. On y va. http://lechanoir.forumactif.com et ça s'écrit lechanoir.forumactif.com et deux fois par mois le mercredi soir sur Radio Campus Bordeaux 88.1
Electrochoc.